le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le forum de l'aménagement durable. Nous sommes en direct sur Radio Territoria, Radio Imo, pour discuter sobriété foncière, quel impact sur le logement et le développement des territoires. François Riossec nous a rejoint, le président de l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs. François, rebonjour, puisque vous étiez déjà sur notre table ronde précédente. L'invité, l'expert du jour, expert politique des politiques publiques locales, l'aménagement, d'urbanisme foncier, ex-secrétaire général de l'Assemblée des communautés de France, la DCF, et aujourd'hui qui a développé sa structure Urba Demain. On est ravis d'accueillir Philippe Schmitt. Bonjour Philippe.
Merci, bonjour à vous.
Je vais vous laisser compléter la présentation dans quelques instants. Également sur le plateau, Cassandre Tarvic, ma consoeur, rédactrice en chef de News Tank City. Bonjour Cassandre.
Enchantée.
Voilà, qui a plein de questions pièges pour nos invités. François, on démarre avec vous pour cette petite introduction. On a parlé ce matin, et donc disponible en podcast bien évidemment, sur les enjeux de l'aménagement. On parle maintenant sobriété foncière. C'est vrai que ça devient un impératif, cette sobriété, et peut-être un casse-tête, si j'ose dire, pour les aménageurs.
Alors, pour nous opérateurs, la sobriété... Et je dirais même la densité, c'est dans notre ADN, puisque mieux on fait et plus on économise le foncier, je dirais plus on loge de fonctions, de logements ou d'activités à l'hectare, je dirais que mieux on se porte. Donc nous sommes favorables toujours à la fois à la sobriété et à la densité, à ceci près que nous sommes attentifs aussi à l'acceptabilité par l'environnement politique et local, c'est-à-dire que faire des densités qui génèrent des recours des tiers contre les projets, si vous voulez, ça ne fonctionne pas. Faire des densités qui ne sont pas acceptées par des clients, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, si vous voulez, on a ce double garde-fou. Et puis, nous avons aussi... pour nous, la problématique, c'est la faisabilité économique. C'est-à-dire que l'approche de la loi a été de supprimer des fonciers. Hein, les préfectures, les DDT sont à l'œuvre dans les territoires pour déclasser ou demander le déclassement de fonciers urbanisables dans les PLU. Et, alors qu'on aurait pu avoir une approche par une règle d'obligation de densité supérieure, par exemple. C'est-à-dire qu'on laissait des fonciers, mais avec l'obligation de doubler la densité opérationnelle. Vous voyez, c'était une possibilité qui n'aurait pas fait monter les prix du foncier, mais qui aurait atteint le même objectif. Voilà. Donc, on a une approche un petit peu divergente, parce qu'on n'est pas du côté du législateur.
Oui, alors ce législateur, justement, il a tranché contre l'étalement urbain avec ses trois lettres, le ZAN, zéro artificialisation nette. On va demander à Philippe Schmitt qui, de par vos activités, Philippe, c'est vrai que vous êtes souvent au contact des élus, et j'ai envie de vous demander, vous qui en rencontrez souvent, où en est-on de l'appropriation du ZAN par les élus? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain?
Bonjour à tous et merci, Président, de m'accueillir à votre table ronde. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que élus locaux, il est toujours difficile de globaliser. Il ne faut pas oublier, il y a 600 000 élus locaux en France, il y a 30 et quelques mille maires, et tout discours globalisant est d'emblée un peu gênant. Et pour notre sujet foncier... évidemment, on va penser les élus un peu ruraux qui ne vont pas avoir les mêmes types de réactions de discussion que des élus urbains. Mais il faut penser aussi qu'on ne va pas parler de la même façon du ZAN dans des territoires qui sont encombrés de friches industrielles depuis des décennies et d'autres dans lesquels on va être en tension immédiate et notamment sur le littoral. Moi, je vais donner juste un exemple pour rebondir sur ce que vient de dire François Riossec. Moi, il s'avère que j'ai un frère qui est maire d'une commune littorale dans le Calvados. Et son prédécesseur avait autorisé donc une opération d'aménagement avec des lots assez petit, la compacité, la densité dont vous venez de parler. Il vient à peine d'arriver à la mairie, il se fait engueuler par les citoyens en disant « Mais monsieur le maire, vous défigurez notre village, notre modèle, c'était justement les 800 mètres carrés, maintenant sur les 250 mètres carrés. » Voilà. Donc on n'oublie pas ce sujet-là par les ânes et où mon ancien président, le maire d'Annecy, j'espère ne pas livrer une confidence qu'il m'avait faite, mais il m'a clairement dit « Moi, j'ai été battu du fait des constructions et du fait des densités. Hein. » Donc c'est pour dire que tous ces sujets-là qui sont à la fois portés au national et portés dans nos logiques, au quotidien, pour un élu, ce n'est pas facile de l'accepter. Je continue mon petit tour. Donc, la difficulté de globaliser les élus, moi, j'y suis assez sensible. En plus, souvent, quand on pense aux élus, on va d'emblée sur l'urbanisme, on pense au maire, comme s'il était tout seul. Voyez ? Mais l'urbanisme, si c'est dans une responsabilité communale, c'est le conseil municipal, ou communautaire, c'est le conseil communautaire. Mais on a, en France, hyper personnalisé la relation de l'urbanisme au maire. Voilà. Or, il s'avère, et moi j'ai eu cette chance cette année, j'ai animé dans beaucoup d'endroits, enfin beaucoup, j'ai dû en faire 8 ou 10, mais de ce que j'appelle des soirées débats, où j'ai invité des maires. Alors, je me suis retrouvé parfois avec 20, 50 ou jusqu'à 70 maires dans le temps d'une soirée pour les faire réfléchir, pour qu'ils discutent entre eux surtout, sur le rôle et la place des élus locaux dans l'urbanisme d'aujourd'hui. En ce sens, quelle est véritablement leur capacité à faire? Pourquoi je dis ça? Parce que le maire, il est pas tout seul et on se demande même parfois qui pilote encore l'urbanisme aujourd'hui. Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est l'élu ou est-ce que c'est l'administratif? On est dans des changements assez profonds. J'aimerais bien dire aussi que parler du ZAN et des élus, mais il y a des territoires dans lesquels la sobriété foncière a été placée dans les projets de mandat. Moi, je sais, alors je ne sais pas si on peut citer des noms, mais je prends un exemple, mais Métropole de Clermont, ils ont une unité politique qui s'est construite autour d'un projet collectif qui plaçait dès 2014 ce sujet-là au cœur de leurs préoccupations. Ce qui n'a rien à voir avec d'autres territoires dans lesquels, en fait, cette sobriété va plutôt être vécue comme une sanction. Et dernière chose, pour vous dire, élu, qu'est-ce que c'est? Je m'en livrais à l'ancienne présidente de l'UNAM. Mais j'ai beaucoup travaillé en Outre-mer cette année en me baladant à La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et eux aussi, ils ont le ZAN de la même façon. Ben, je peux vous dire qu'en Outre-mer, la question de la sobriété foncière, là aussi, elle se pose différemment. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de cette appropriation? Et moi, j'ai envie de dire déjà tous les élus connaissent. Et c'est très, très rare. Hein. J'ai un sujet qui aussi vite est identifié par tous les élus. Et à l'époque où j'étais donc dans le réseau national des intercos, on organisait des événements, mais très vite, c'était des centaines d'élus pour s'informer sur ce qu'est le ZAN. La question est de savoir, est-ce que c'est pour autant un sujet qu'ils portent ou un sujet dont ils se disent qu'ils vivent comme une contrainte? Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un sujet normatif que dans un sujet qui embarque par le sens. Et donc, on a du mal à trouver aujourd'hui son chemin entre la contrainte et le véritable virage qu'on peut réfléchir sur les questions d'aménagement.
Ça veut dire que c'est vécu plus contre une contrainte, comme une contrainte, que comme une opportunité?
Alors, à mes yeux, mais moi, je suis qu'un observateur parmi beaucoup d'autres, hein, mais moi, je vois en effet beaucoup plus l'idée que le ZAN, il a une vertu, c'est que malgré tout, c'est un électrochoc. Je pense autant pour les collectivités que pour les aménageurs, les promoteurs et autres. On est à devoir réfléchir. Et à ce titre-là, je trouve que la loi, elle a cette vertu-là. C'est qu'elle a mis un coup d'accélérateur. C'est un électrochoc. Mais il suffit de regarder. Vous avez certainement vu comme moi, et je suis sûr qu'il y a des Bretons là autour de nous. Mais regardez par exemple les réflexes qu'ont eu beaucoup de collectivités sur le littoral breton. En tout cas, c'est ce que rapporte la presse aussi, en disant vite, 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 que tout mon quota, je l'utilise dès maintenant. Donc, on a eu un réflexe, si vous voulez. Donc, est-ce que ça signifie qu'on est embarqué par le sens? Il semblerait que non. C'est que plus vite, 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 je consomme, en fait, ce que je considère être mes droits à consommer. De la même façon, Est-ce que...
Plus vite je consomme mes doigts parce que je vais être empêché après.
Et parce que je vais être empêché après. Donc vite, 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 il fallait que je fasse. Voilà. On voit bien qu'on a du mal, malgré tout, à replacer... Et encore une fois, enfin, excusez-moi d'insister, mais c'est très, très différent d'un territoire à l'autre. Hein. C'est difficile, ces questions globalisantes sur les élus locaux. Hein.
On retient, un, que tout le monde est au courant et que finalement, ça s'est répandu, j'allais dire, comme une traînée de poudre, hein, Cézanne. En tout cas, voilà, c'est rare qu'un texte ait aussi pris et que finalement, les réponses apportées, elles sont multiples. C'est bon, difficile de globaliser. Cassandre, est-ce que vous avez une question, une réflexion sur ce que vient de nous dire Philippe.
Oui, vous parliez de cette différence d'appropriation entre les territoires qui dépend aussi de la différence de ces territoires en eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un maire, qu'un élu, qu'une interco prend bien en compte ces impératifs, réussit à s'approprier le ZAN ou en tout cas réussit à mettre en place une trajectoire de sobriété ?
Non, mais aujourd'hui, je redis, aujourd'hui pour moi il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans un cadre normatif extrêmement contraint. Et s'il me fallait résumer, encore une fois, je n'aime pas la globalisation, oui. Mais on va le faire. Aujourd'hui, le ZAN n'est pas une question. Le ZAN est quelque chose dont les élus ont l'impression que ça descend. Et tout le monde dit, et moi, comment je peux faire ? Voilà. On n'oublie pas que quand on parle des communes, on a les grosses communes et on a aussi les toutes petites communes. Il s'avère que j'ai sillonné notamment dans l'Est de la France, dans le Grand Est, et j'ai rencontré beaucoup de maires de petites communes. Eux voient le ZAN comme une contrainte. Voilà. C'est la fin d'un modèle, ils ont l'impression de la fin d'un modèle, sans pour autant considérer qu'il y a véritablement des nouveaux axes de développement possibles. Aujourd'hui, le ZAN, dans certains territoires, est vécu comme un obstacle au développement et à l'aménagement des territoires. Et il est surtout source de grandes incompréhensions. Et je veux dire par là que beaucoup de maires témoignent du fait que la DDT soit venue dans les territoires en leur disant « Mais regardez, monsieur le maire, toutes les dents creuses que vous avez, vous ne pouvez pas continuer à vous étendre, il faut réinvestir ça, etc. » Et de l'autre côté, on a des élus qui disent, et je vais faire exprès d'être un peu vulgaire, mais ils nous emmerdent la DDT, parce qu'il y en a qui parlent comme ça, hein, dans les... qu'ils viennent me dire comment je vais pouvoir les mobiliser, ces fameux fonciers-là. Et ça fait partie des sujets, c'est que nous n'avons pas tous les outils qu'il faut pour facilement mobiliser, quand bien même on a des dents creuses. Pourquoi elle est là, la dent creuse ? Bien souvent, c'est soit parce qu'on a un comportement spéculatif d'un propriétaire qui ne va pas la lâcher parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas meilleur placement que ce foncier. Voilà. Soit c'est parce que l'on a un phénomène qui se développe beaucoup en France, moi c'est ce que j'observe, c'est la problématique de l'indivision. La problématique de l'indivision, à chaque fois qu'on traîne, en fait c'est de plus en plus compliqué après de mobiliser. Et quand on parle avec des élus, notamment des problématiques de mobilisation, des bâtis en tissu ancien, etc., ils nous disent bien qu'entre le principe théorique défendu par la DDT en disant « Vous avez tant de pourcents de logements vacants, vous avez tant de pourcents de bâtiments abandonnés, vous avez tant de temps creuses. Donc, il n'y a plus rien. » Voilà. Parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'État est dans une application à appliquer l'esprit de la loi ZAN immédiatement, alors qu'on avait un calendrier qui était prévu pour qu'on puisse élaborer les documents régionaux qui seraient traduits dans les documents plus locaux que sont les SCOT, qui seraient in fine traduits dans les PLU. Aujourd'hui, on fait ZAN tout de suite dans l'esprit du contrôle de l'égalité exercé par les DDT et préfectures.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sentiment de dépossession aussi par rapport à certaines prérogatives ? Voilà, on peut imaginer la frustration de certains maires, parce qu'il y a des territoires extrêmement dynamiques, donc qui attirent les populations. Il faut bien les loger. Il y a des entreprises aussi qui arrivent sur les territoires. Et à un moment, le maire ou l'équipe municipale est obligé de leur dire « Stop, on ne peut plus ».
Il y a beaucoup de questions dans votre question.
La déposition, enfin, le fait d'être empêché.
Mais de toute façon, le sujet sur la responsabilité de l'urbanisme, j'entends les enjeux de la décentralisation et de l'exercice local des compétences, depuis quelques années, on voit bien que c'est un peu battu en brèche, c'est-à-dire en substance que certains observateurs disent clairement qu'on est rentré dans une nouvelle ère de recentralisation de l'urbanisme, tellement l'État est présent, tellement la loi est bavarde, etc. Il y a certains maires qui me disent, mais moi j'ai loi montagne, plus loi littorale, plus tout ça, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire ? Oui. Et on a parfois du désarroi sur la réelle capacité à faire. Après, la grande difficulté, de mon point de vue, c'est que nous n'abordons ce sujet de la sobriété foncière que sous l'angle technique, que sous l'angle, alors que de mon point de vue, il y a un véritable enjeu de société qu'il faudrait essayer de placer, oui, à la hauteur qu'il mérite.
Vous dites que ce n'est pas simplement de la planification urbaine, Lausanne, c'est justement cet enjeu de société. Alors expliquez-nous à quoi ça correspond.
Moi, je pars du principe que ces sujets-là, ils nous renvoient au mode d'aménager, d'occuper, de gérer, de vivre un territoire, voire ou de le protéger. Et à ce titre-là, de mon point de vue, c'est un enjeu de société. Le problème, c'est que ces sujets de société, on ne les aborde pas. Pas en tous les cas. Vous savez, il y a eu une sortie une fois d'Emmanuel Wargon qui a essayé de mettre une petite pique sur la maison individuelle. Et 3 jours après, on le sait bien, c'était je crois en octobre 2021, 3 jours après, elle a fait marche arrière en s'excusant d'avoir abordé ce sujet. Moi, ce que je constate tout simplement, c'est que tous les sujets qui ne sont pas traités au national, avec un débat de société tel qu'il devrait être conduit au national, in fine, se retrouvent derrière le talus, sur le terrain, et c'est le maire qui est en relation première et directe avec les propriétaires. Ça veut dire qu'en substance, que toute la pensée administrativo-politique qui nous guide sur ces enjeux de sobriété, voilà, fait du maire celui qui, oui, on le dit souvent, mais qui est un peu à portée de baffe. Et quand on regarde la relation qu'il a avec les propriétaires des terrains, on voit, alors ça c'est mon point de vue, mais je constate que les maires sont de moins en moins dans une relation favorable aux propriétaires. Alors qu'avant, sur les décennies d'avant, vous faisiez, en mettant à urbaniser des terrains, etc., on faisait souvent beaucoup de gens en profitaient, si je puis dire. Donc si je devais simplifier, l'élu, il avait un rapport positif aux concitoyens électeurs propriétaires, sachant que celui qui ne tirait pas grand profit du plan local d'urbanisme, bon, voilà, on ne disait rien. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Avec les obligations que nous avons d'opérer, moi j'appelle ça comme ça le rétrozonage, c'est-à-dire remettre dans le giron agricolo-naturel des terres qu'on avait mis à urbaniser, il y a des élus qui me disent que dans leur bureau sont venus des propriétaires qui me disent « mais vous me spoliez, vous m'enlevez ma richesse », enfin, etc., etc. Et cependant, c'est vrai, ça soulève des vrais sujets, parce qu'on peut très bien imaginer devoir entendre ceux qui disent: quand j'ai reçu ces terrains, même si c'est par succession, au moment où j'ai eu ma succession, ces terrains ont été évalués au prix à urbaniser, vous me les enlevez. Bon, voilà, moi j'en discutais avec un député qui me dit ça, c'est des vrais sujets. Est-ce qu'on doit rembourser quelque chose ? Et de la même façon, on a, vous avez vu, je ne sais pas, François, réagissez hein, si vous le souhaitez, oui, à mes propos. Mais pour moi, la conclusion, c'est qu'on est dans une période où le mode de relation de l'élu, oui, au propriétaire est en train d'évoluer et doit se reconstruire sur d'autres bases.
Quoi. On entend effectivement l'élu qui, avec une relation plutôt positive, et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils en prennent pour leur grade, les maires, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui lâchent la rampe.
On est au cœur des contradictions, des injonctions contradictoires, et donc il y a l'injonction nationale qui est de densifier, et puis l'injonction locale qui est de ne pas construire derrière chez moi, et voire même dans la commune, puisque le CEREMA a sorti une statistique qui dit que 60% des Français ne veulent pas qu'on construise dans leur commune. Donc c'est même plus large que derrière chez soi, ce qui est inquiétant. Donc ces injonctions contradictoires, c'est un peu une schizophrénie citoyenne, c'est-à-dire que Je vote d'un côté pour qu'on garde des espaces naturels, la nature ou l'agriculture dans les champs, et puis de l'autre côté, j'ai besoin de me loger, etc. Donc on voyait que ça veut dire que c'est cette schizophrénie qui traverse le cerveau de nos concitoyens qui se répercute dans les règles et qui est difficile à gérer. Donc d'un côté, le préfet demande une densité. De l'autre, le maire, qui est pris dans un millefeuille administratif, accepte d'inscrire des densités, sachant qu'il dit ensuite, une fois que le PLU est voté, on le pratique tous, il dit aux opérateurs, eh bien, écoutez, moi, ça sera les deux tiers du PLU ou la moitié, et vous enlevez un étage, et puis ensuite l'association de quartier demande qu'on enlève un deuxième étage, etc. Donc, on connaît bien cette problématique. C'est pour ça que, face à cette problématique, nous avions proposé, et on va y revenir, d'intégrer les opérateurs dans la planification, parce que s'il y a des opérateurs dans la planification, nous sommes des gens du réel. Et donc, on pourra intervenir en disant il faut un contrat d'opération pour valider, c'est le contrat d'opération qui valide la faisabilité des densités votées et inscrites. Si on n'a pas cette contractualisation entre les opérateurs, une concertation publique et la préfecture et la mairie, le SCOT, à ce moment-là, on est dans le désir. On a des PLU de potentiel désir. Voilà. Alors moi, je suis sensible quand même aussi à toutes ces... tous ces articles qui actuellement sortent sur une remise en cause de la propriété. Et il y a une grande faiblesse intellectuelle à défendre la propriété. C'est-à-dire que la propriété est toujours vue souvent comme une sorte d'expropriation, etc. Alors que je pense que quelqu'un qui travaille et qui est propriétaire de son logement, c'est quelqu'un qui conserve le fruit de son travail. Et l'enjeu de l'accession à la propriété, l'enjeu de la propriété, c'est quand même de conserver ce que l'on a fait pour soi-même, pour son entretien et pour les siens. Vous voyez, je ne trouve pas dans la presse, enfin dans les débats, je ne trouve pas tellement de défense de la propriété, du patrimoine, etc. Donc là, je pense que c'est un peu une faiblesse intellectuelle que nous avons à repositionner, si vous voulez, un enjeu anthropologique, je prends des gros mots, un enjeu anthropologique à la propriété. Enfin, si on a des sociétés qui défendent cette vision depuis des centaines ou des milliers d'années, c'est pas pour rien. Voilà. Et puis, si vous voulez, pour revenir et positionner encore un petit côté sociétal dans ce débat, sur la contradiction entre les densités et les modes de vie. Notre temps de vie a quasiment doublé en plus d'un siècle. Il fait 700 000 heures en moyenne. Et notre temps de travail, lui, a été divisé par 3 en 100 ans. Et le temps de travail dans le temps de vie éveillé n'est plus que de 12%. C'est-à-dire que nous passons 88% de notre temps de vie éveillé à faire autre chose qu'à travailler. Ce qui veut dire que le lieu de vie, le cadre de vie, le logement sont considérables. Considérables. Et donc, restreindre cette qualité de vie, cette qualité du temps de vie à des considérations de transport en commun ou je ne sais quoi, si vous voulez, sont en quelque sorte disproportionnées. Il faut que nous défendions cette qualité du temps de vie. Et j'y pensais récemment, j'ai fait une petite chronique que mes confrères ont lue sur le paradoxe qu'il y a lors des grèves et des manifestations sur les retraites. On défend ou pas un an ou plus de travail ou trois. Enfin. Mais à quoi servira d'avoir une retraite plus tôt si on est dans un cadre de vie difficile à vivre? Et le Covid nous a montré aussi cette contradiction qu'il y avait entre la volonté préalable à densifier. Et on sait bien que ceux qui ont mal vécu le Covid, c'était les 15% de Français qui étaient dans des petits logements collectifs et mal placés et sans accès à la nature. Vous voyez que là, on a un ressenti, on a bien une mesure de ce que vivent nos concitoyens et qui relativise les discours et les injonctions.
Réaction.
Oui, je ne sais pas si je peux me permettre là, de parler à titre complètement. De toute façon, je ne parle qu'à titre personnel parce que maintenant, je suis un indépendant. François, si vous me permettez, juste indiquer que propriété, peut-être que ça mérite de distinguer propriété immobilière et propriété foncière, déjà. Et on voit bien tous les débats sur les OFS, BRS, etc., qui sont, de mon point de vue, intéressants. Et pourquoi je fais le lien avec propriété foncière ? Parce qu'on s'aperçoit, quand on discute beaucoup avec les élus et les cadres des collectivités, que la planification, le ZAN, la problématique de ZAN, tel que c'est l'objet aujourd'hui, c'est un sujet que la loi a mis dans la planification. C'est ça, hein, ce n'est qu'une contrainte dans la planification échelle régionale, échelle locale avec le SCOT et le PLU. C'est ça le ZAN, c'est une contrainte. Mais je pense que ça nous invite à bien réfléchir sur les limites intrinsèques à la planification. Voilà. On a des sujets, vous voyez tous, je suis sûr, tous les opérateurs que vous êtes voient bien le niveau de complexification croissante des PLU. Et il est des PLU qui sont maintenant chargés de COEF, de biotope, de bioclimatisme, de machin, qui vont devenir, pour le pétitionnaire lambda, même pour un aménageur professionnel, qui vont finir par être assez lourds de lecture. Hein, on va le dire comme ça. Quand je regarde, parce que j'ai entendu les intervenants précédents parler de la proposition de loi, la PPL, comme on dit, au Sénat, sur ces problématiques de ZAN, qui essayent de corriger deux, trois choses. Moi, quand je vois cette PPL, même si je salue le travail des sénateurs, je vais le dire tout net, je suis atterré. Mais atterré ne serait-ce que du niveau de complexité et de technicité qu'il y a dans la loi, au point de dire dans la loi. Alors, le ZAN, dans vos documents de planification, vous ne pourrez pas faire en sorte qu'il y ait au moins un hectare qui soit donné par commune. Mais attention, si c'est une commune nouvelle, vous allez rajouter 0,5 hectare par ancienne commune, mais le tout ne devra pas dépasser 2 hectares. C'est ça la loi. C'est ça la loi, où la loi, à un moment, cette même proposition de loi, elle nous explique comment l'échelon régional, l'échelon local avec le SCOT, l'échelon municipal ou intercommunal avec le PLU ou le PLUI doivent marcher ensemble. Alors on va faire une conférence sur le ZAN. Donc ça, dans toutes les régions, va être instituée une conférence sur le ZAN. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Vous allez mettre 4 représentants de l'échelon régional, 6 représentants de l'échelon intercommunal, dont au moins 2 seront des représentants d'Interco, donc qui ne seront pas couverts par le SCOT. Vous allez mettre 4 représentants municipaux, mais il faudra qu'il y ait des représentants municipaux du rural, de l'urbain, etc. La loi dit ça. Et c'est pour vous dire le
niveau...
La loi
descend dans le détail.
C'est un niveau de détail. Moi, j'ai eu cette chance-là, j'ai commencé à bosser niveau national, avant j'étais en collectivité, niveau national en 2005. Donc entre 2005 et aujourd'hui, je vois l'évolution du code de l'urbanisme. C'est même l'UNAM qui le rappelle. On était de l'ordre, j'exagère à peine, mais genre 600 pages. On allait 2000 et maintenant c'est 4000 pages. C'est une inflation les 10 dernières années de 40% du code de l'urbanisme. Et moi, je lis cette proposition de loi du Sénat, je me dis, qui d'autre que les experts qui sont dans la quotidienneté du ZAN peuvent comprendre ce dont il s'agit ? Donc on a un véritable sujet qui ne nous aide pas, qui est complètement contre-productif là-dessus. Et qu'est-ce que c'est cette loi qui dit maintenant, voyez le niveau de réflexion qu'on a sur l'aménagement, de dire, alors au moins chaque commune, au moins un hectare de trucs, on rentre dans quoi ? Et moi, l'expression que j'ai reprise depuis longtemps, c'est cet urbanisme à la Casio, à la calculette, qui va, au lieu de libérer les énergies et aider notamment à refondre la pensée publique avec la pensée privée, etc., on est en train de se ligoter dans un exercice tellement technique que la question que je pose souvent à des élus, avez-vous le sentiment d'avoir le pouvoir ? Mais la vérité, c'est que les élus ne suivent plus, sauf les quelques-uns qui vont hyper s'engager parce qu'ils sont vice-présidents ou adjoints à l'URBA, etc. Mais il y a plein d'élus qui décrochent sur leur capacité à comprendre ce qui se joue sur les documents de planif. Quoi.
Bien sûr, et puis même c'est une question de temps de comprendre tout ça. Inflation normative, ça on est habitué, et pas qu'en urbanisme. Cassons une question, et puis après on va clôturer cette session.
Alors, en ce moment, il y a quand même pas mal de discussions, que ce soit au Parlement avec cette PPL ZAN, que ce soit au gouvernement qui a lancé un cycle de réflexion sur la décentralisation des politiques du logement. Est-ce que vous avez un message à faire passer dans ces cercles de discussion? Le CNR Logement aussi est en cours pour justement faire en sorte que ça se passe mieux, faire en sorte qu'on donne plus de pouvoir aux maires. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui doit être débattu et qu'est-ce qui doit faire partie des mesures qui seront prises?
En fait, si j'avais, moi, adressé un constat, après je vais essayer d'ouvrir des postes, des pistes d'évolution, mais si je dresse un constat avec mes mots simples et vraiment simplification, moi je dirais, un, je vois une action publique qui n'est pas en ordre de marche cohérent, c'est-à-dire en substance, entre la dynamique municipale, la dynamique intercommunale, la dynamique à l'échelle du bassin qui forme le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et la dynamique régionale, je ne vois pas d'unité. En tous les cas, il n'y a pas d'unité politique, au point que des maires disent « Ouais, mais mon agglo, elle m'empêche d'eux, ou mon SCOT, il m'empêche d'eux, ou la... » Voilà, on a cet enjeu-là, c'est le premier point, c'est qu'on a une fragmentation de l'action publique locale. Et je trouve que le ZAN, tel qu'il est mis là, il devrait secouer le cocotier et que tout le monde reparte en marche, mais je ne vois pas ça. Le deuxième point, c'est la relation entre l'État et les collectivités. Parfois, je déplore un petit peu qu'on n'arrive pas à être dans un mouvement cohérent. Et je ne vois, quand on va sur le terrain, mais c'est à vous d'apprécier, hein, mais moi, je vois énormément de tensions, d'amertume dans la relation au préfet, dans la relation au DDT, etc. Au lieu d'être dans un mouvement où on partage, la DDT est dans une logique assez fréquemment, très normative, très contrôle. C'est le réflexe des gens qui veulent reprendre du pouvoir sans en avoir les moyens. En fait, le seul moyen, c'est le bâton. Et on est un peu dans cette logique-là où on devrait essayer de s'ouvrir. Le deuxième point, c'est que je vois une fracture de plus en plus forte, je le disais, entre la sphère administrative et la sphère technique, et ça sur de nombreux champs. Voilà. Donc je ne dis pas que les élus ne s'impliquent pas, les élus ils s'impliquent énormément. L'urbanisme pour un élu local, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a quelque chose d'affectif, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est le marqueur du mandat, c'est l'engagement. Et là, en fait, il a du mal à retrouver ses petits, parce que lui-même, il n'est même plus à la manœuvre. Vous avez fait, vous devez tous bien connaître ce que c'est qu'un PLU. On comprend très très vite qu'il y a des élus qui décrochent, quoi. Là-dessus, quand on fait les... Ça n'a plus rien à voir, moi c'est l'image que je me fais, mais ça n'a plus rien à voir avec la relation qu'avait notamment un aménageur. Je regarde Pascal en pensant, parce que je vais remonter aux temps anciens. Mais l'idée... Non, pardon Pascal, mais non, c'est pour dire qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, on ne pensait pas sa relation au maire, la relation au PLU, la relation propriétaire de la même façon. Donc on a à réinventer tout ça, oui, ça c'est clair.
Donc voilà, une contrainte qui se... On a le sentiment, en tout cas, que c'est, quelque chose est bloqué. Comment on fait, piste de solution, il nous reste quelques minutes pour justement aborder ces pistes de solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel?
Non, mais il y a bien sûr qu'il y a des lumières au bout du tunnel. Mais je pense qu'il faut avoir la vue large. C'est-à-dire, enjeux fiscaux, vous les avez un tout petit peu évoqués. Je vous invite à lire, c'est assez intéressant, le dernier rapport du COP, du CPO, je veux dire, pardon, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est sorti, je ne sais pas si d'avoir quelques mois, qui fait le tour des dispositions fiscales et financières qui peuvent avoir un impact sur notre comportement en matière d'urbanisme. C'est-à-dire... la fiscalité foncière locale, les taxes d'aménagement ou PUP ou autres, les droits de mutation, etc. Et ils essayent de voir ce qu'il faudrait changer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives, qui sont même contre-productives sur ces sujets fiscaux. De la même façon, je les évoquais, il faut bien comprendre que la problématique foncière, elle reste en fait un enjeu pour la fiscalité extrêmement important pour un maire. Donc on a là aussi un peu les éléments de contradiction. La table ronde porte sur le logement, mais il s'avère que je travaille un peu aujourd'hui avec CCI France, le réseau national des chambres de commerce et d'industrie, sur les enjeux fonciers soulevés par la réindustrialisation. Vous voyez ? Et là aussi, tout le monde est en attente en fait, de mobilisation. Donc on a des équilibres à retrouver, non seulement pour pouvoir produire le logement, et je souscris à ce qu'a dit François Rieussec, évidemment, en réponse aux attentes de la population. C'est à 80% la maison individuelle. Donc comment on arrive à produire ça? C'est pour ça que j'aime beaucoup l'UNAM, c'est que je crois beaucoup aux opérations d'aménagement bien réfléchies et bien pensées plutôt qu'au saupoudrage dans le secteur diffus. Je suis parti dans tous les sens, désolé monsieur le
directeur. Non, voilà, c'était sur les pistes de solutions, mais effectivement, on compte sur l'UNAM aussi pour assurer cette cohérence. On arrive au bout, chers amis, de cette table ronde sobriété foncière. Un grand merci à Philippe Schmitt, expert politique publique locale, aménagement urbanisme foncier, on peut l'applaudir. Merci à François Riossec, merci Kazan Tarvik, on vous retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve dans un instant pour parler recyclage foncier. À tout de suite.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.